12. La nuit était tombée quand Ralph et les autres sortirent des bureaux de Howie Gold. Celui-ci était resté dans son cabinet pour tout organiser en compagnie de son enquêteur. Ralph se demandait de quoi ils allaient parler maintenant que tout le monde était parti.
« Où logez-vous, mademoiselle Gibney ?» demanda Janet.
« Au Flint Luxury Motel. J'ai réservé une chambre. »«
Oh non ! Vous ne pouvez pas dormir là. Le seul luxe est sur l'enseigne. C'est un hôtel miteux. »
Holly parut déconcertée.
« Il doit bien y avoir un Holiday Inn.
Venez à la maison, » proposa Ralph, devançant sa femme dans l'espoir que cela lui vaudrait un bon point.
Car Dieu sait qu'il en avait besoin. Holly hésita. Elle ne se sentait pas à l'aise chez les autres. Elle n'était même pas à l'aise dans la maison où elle avait grandi, lors de ses visites trimestrielles obligatoires à sa mère. Elle savait que sous le toit de ces inconnus, elle tarderait à trouver le sommeil et se réveillerait tôt, attentive au moindre craquement des murs et des planchers. Elle guetterait les murmures des Anderson, en se demandant s'ils parlaient d'elle, très certainement. Elle aurait peur qu'ils l'entendent si elle devait se lever en pleine nuit pour faire pipi. Or, elle avait besoin de dormir. Cette réunion avait été stressante, et la résistance incessante que représentait l'incrédulité d'Anderson, si elle était compréhensible, l'avait épuisée.
Mais, aurait dit Bill Hodges, mais.
L'incrédulité de l'inspecteur était le mais, la raison pour laquelle elle devait accepter cette invitation. Alors, elle accepta.
Merci, c'est très aimable, mais j'ai une course à faire avant. Je n'en ai pas pour longtemps. Donnez-moi votre adresse, mon iPad me conduira chez vous.
Si je peux vous aider, dit Ralph, ce sera avec plaisir.
Non, merci, je vous assure.
Elle échangea une poignée de main avec Yunel.
Accompagnez-nous si vous le pouvez, lieutenant Sablot. Je suis sûr que vous en avez envie.
Il sourit.
En effet, mais comme le dit le poème de Frost, j'ai des promesses à tenir.
Marcy Maitland demeurait légèrement à l'écart. Elle tenait son sac à main contre elle et semblait en état de choc. Janet marcha vers elle sans hésiter. Ralph vit Marcy avoir un mouvement de recul tout d'abord, comme affolée, puis laisser Janet la prendre dans ses bras. Finalement, elle alla jusqu'à poser sa tête sur son épaule et l'étreignit à son tour. On aurait dit une enfant fatiguée. Quand les deux femmes se séparèrent, elle pleurait.
« Toutes mes condoléances, » dit Janet. « Merci. » Si je peux faire quelque chose pour vous ou pour les filles, n'importe quoi. Non, vous ne pouvez rien faire. Mais lui, oui.
Elle se tourna vers Ralph, et son regard, bien que mouillé de larmes, était glacial, pénétrant.
Cet inconnu, je veux que vous le trouviez. Ne le laissez pas s'échapper uniquement parce que vous ne croyez pas à son existence. Vous en êtes capable. Je ne sais pas, répondit Ralph, mais j'essaierai.
Sans rien ajouter, Marcy prit le bras que lui offrait Yunel Sablot et se laissa conduire jusqu'à sa voiture. 13. À quelques mètres de là, garé devant un magasin Woolworth fermé depuis longtemps, Jack Hoskins, assis au volant de son pick-up, une flasque à la main, observait le petit groupe sur le trottoir. La seule personne qu'il ne parvenait pas à identifier était une femme svelte vêtue d'un pantalon de femme d'affaires en déplacement. Elle avait les cheveux courts et une frange aux mèches grisonnantes, irrégulières, comme si elle l'avait coupée elle-même. Le sac qui pendait sur son épaule aurait pu contenir un émetteur radio. Elle regardait Sablot, le métèque de la police d'État, jouer les chevaliers servants auprès de Madame Maitland. Elle se dirigea ensuite vers sa voiture, typique des véhicules que l'on louait dans les aéroports. Jack envisagea brièvement de la suivre, mais décida finalement de rester avec les Anderson. Après tout, c'était Ralph qui l'avait conduit ici. Et n'existait-il pas un dicton selon lequel il fallait rentrer à la maison avec la fille qu'on avait emmenée au bal? De plus, Anderson méritait toute son attention. Jack ne l'avait jamais aimé. Et, depuis son petit commentaire de sale snobinard sur sa fiche d'évaluation l'année dernière, « pas d'avis », avait-il noté, comme si sa mère sentait la rose, il le détestait. Il s'était réjoui de le voir se prendre les pieds dans sa bite à cause de l'arrestation de Maitland, et il n'était pas étonné maintenant de découvrir que ce salopard donneur de leçons fourrait son nez dans des choses auxquelles il valait mieux ne pas toucher. une affaire classée, par exemple. Jack palpa sa nuque, grimaça et démarra. Sans doute rentrerait-il au bercail après avoir suivi les Anderson jusque chez eux. Mais il se disait qu'il pourrait aussi planquer devant leur maison, pour voir ce qui se passait. Il avait une bouteille de Gatorade s'il avait besoin de pisser. Peut-être même qu'il arriverait à dormir un peu, si la brûlure lancinante dans sa nuque lui accordait un peu de répit. Ce ne serait pas la première fois qu'il dormait dans son pick-up, surtout depuis qu'il n'avait plus la corde au cou. Jack ne savait pas trop à quoi s'attendre ensuite, mais il avait pigé ce qu'il avait à faire. En gros, empêcher Anderson de fourrer son nez dans... Dans quoi, au juste? Il l'ignorait. Mais cela concernait le petit Peterson et la grange de Canning Township. Ça lui suffisait pour l'instant et, malgré le coup de soleil, malgré un possible cancer, cela avait éveillé son intérêt. Il sentait que lorsque viendrait l'étape suivante, il en serait averti. 14. Grâce à son application de navigation, Holly se rendit aisément et rapidement au Walmart de Flint City. Elle adorait les Walmart, leur gigantisme, leur anonymat. Les clients ne s'espionnaient pas comme ils le faisaient dans d'autres commerces. Enfermés dans une sorte de bulle, ils achetaient des vêtements, des jeux vidéo ou du papier toilette en gros. Même pas besoin de parler aux caissières si on choisissait les caisses automatiques, ce que faisait toujours Holly. Comme elle savait exactement ce qu'elle voulait, cela alla très vite. Elle se rendit d'abord au rayon des fournitures de bureau, puis à celui des vêtements pour hommes et garçons, avant de finir au rayon des équipements automobiles. Après être passée aux caisses automatiques, donc, elle prit soin de glisser le ticket dans son portefeuille. C'était des frais professionnels qu'elle espérait bien se faire rembourser. Si elle restait en vie, évidemment. Ce qui avait plus de chances d'arriver, devinait-elle. Bill Hodges aurait dit « Ah, encore une des fameuses intuitions de Holly ». Si Ralph Anderson, tellement semblable à Bill à certains égards, tellement différent par ailleurs, parvenait à surmonter ses a priori. Elle regagna sa voiture et se rendit au domicile des Anderson. Mais avant de quitter le parking, elle récita une brève prière. Pour eux tous. 15. Le portable de Ralph sonna au moment même où Janet et lui entraient dans la cuisine. C'était Yunel. Il avait obtenu le numéro de Lovey Bolton, à Marysville, par John Zellman, le propriétaire du Gentleman Please, et n'avait eu aucun mal à joindre Claude. « Que lui avez-vous dit ?» demanda Ralph.
« Grosso modo ce que nous avions convenu dans le cabinet de Howie Gold. Que nous souhaitions l'interroger car nous avions des doutes sur la culpabilité de Maitland. J'ai bien insisté sur le fait qu'à nos yeux, Bolton lui-même n'avait rien fait de mal. » Et que les gens qui viendraient le voir agissaient à titre privé. Ils voulaient savoir si vous seriez parmi eux. J'ai dit oui. J'espère que ça ne vous ennuie pas. Lui semblait d'accord.
Pas de problème. Janet était montée directement. Et Ralph entendit sonner leur ordinateur de bureau commun quand elle l'alluma. Quoi d'autre?
Je lui ai dit que si Maitland avait été victime d'un coup monté, il risquait de subir le même sort, d'autant qu'il avait un casier judiciaire.
Et comment a-t-il réagi?
Bien. Il ne m'a pas semblé sur la défensive. Mais ensuite, il a dit une chose intéressante. Il m'a demandé si j'étais sûr que c'était bien Terry Maitland qu'il avait vu au club le soir du meurtre du petit Peterson.
Il a demandé ça? Pourquoi?
Il n'avait jamais vu Maitland se comporter de cette manière et, quand il l'a interrogé sur son équipe de baseball, Maitland a répondu une banalité sans entrer dans les détails, alors que son équipe jouait les play-offs. Il a précisé que Maitland portait des baskets très tape à l'œil, comme celles que s'achètent les gamins après avoir cassé leur tirelire pour ressembler à des caïds, a-t-il dit. C'était la première fois qu'il voyait Maitland porter ce genre de chaussures.
Ce sont les baskets qu'on a retrouvées dans la grange.
Il n'existe aucun moyen de le prouver, mais je suis sûr que vous avez raison.
Du premier étage lui parvinrent les gémissements et les grincements de leur vieille imprimante Hewlett-Packard. Il se demanda ce que manigançait sa femme. Yunel poursuivit.
« Vous vous souvenez que Holly Gibney nous a parlé des cheveux retrouvés dans la chambre du père de Maitland, là-bas dans le centre pour personnes dépendantes, ceux d'une des fillettes assassinées ?»«
Évidemment. »«
Qu'est-ce que vous pariez que si on épluche les comptes de Maitland, on découvrira qu'il a acheté ses baskets, et un reçu de carte de crédit portant une signature exactement identique à la sienne.
Cette hypothétique créature serait capable de faire ça, je suppose, répondit Ralph. Mais à condition d'avoir fauché la carte bancaire de Terry.
Pas besoin. N'oubliez pas que les Maitland vivent à Flint City depuis toujours. Sans doute ont-ils des comptes dans une demi-douzaine de boutiques du centre. Il suffisait d'entrer dans un magasin de sport, de choisir ses super baskets et de signer. Qui irait lui demander quoi que ce soit? Tout le monde le connaît en ville. C'est la même chose que les cheveux et les culottes des gamines, vous comprenez? Il prend l'apparence des gens, il commet ses horreurs, mais ça ne lui suffit pas. Il tisse la corde qui servira à les pendre, car il se nourrit de la tristesse. Il se nourrit de la tristesse.
Ralph passa une main sur son visage et se massa les tempes.
Ralph, vous êtes toujours là?
Oui. Écoutez, Yunel, vous poussez le bouchon un peu trop loin pour moi.
Je comprends. Moi-même, je ne suis pas convaincu à 100%. Mais il ne faut pas fermer totalement la porte à cette possibilité.
Ce n'est pas une possibilité, pensa Ralph. C'est une impossibilité. Il demanda à Yunel s'il avait conseillé à Bolton d'être prudent. Rire du lieutenant.
Oui, je l'ai fait. Et il a ricané. Il m'a répondu qu'il y avait 3 armes à feu dans la maison, 2 fusils et 1 pistolet. Et que sa mère tirait mieux que lui, malgré son emphysème. Ah, bon sang, ce que j'aimerais vous accompagner.
Essayez de vous libérer.
Je vais faire au mieux.
Une fois cet appel terminé, Janet redescendit en agitant une fine liasse de feuilles.
J'ai fait des recherches sur Holly Gibney. Tu veux que je te dise? Pour une femme réservée qui ne sait absolument pas s'habiller, elle a roulé sa bosse.
Au moment où Ralph prenait les feuilles, des phares éclairèrent l'allée. Janet les lui reprit aussitôt. Il eut juste le temps d'entreapercevoir le gros titre de la première page. Un policier retraité et 2 autres personnes sauvent des milliers de spectateurs durant un concert à l'auditorium Mingo. Il supposa que Mademoiselle Holly Gibney était une de ces 2 autres personnes.
« Va l'aider à porter ses bagages, » dit Janet. « Tu liras tout ça au lit. »
16. Les bagages de Holly consistaient en un sac à bandoulière contenant son ordinateur, un fourre-tout pouvant tenir dans le compartiment à bagages d'un avion, et un sac en plastique de chez Walmart. Elle laissa Ralph prendre le fourre-tout, mais insista pour garder son ordinateur et les achats effectués au supermarché.
« C'est très gentil à vous de m'accueillir, » dit-elle à Janet. « Ça nous fait plaisir. Puis-je vous appeler Holly ?»« Oui, bien sûr. Très bien. » La chambre d'amis se trouve au fond du couloir, au premier. Les draps sont propres et vous avez une salle de bain particulière. Juste une chose, ne vous prenez pas les pieds dans la machine à coudre si vous allez aux toilettes en pleine nuit.
Une expression de soulagement manifeste apparut sur le visage de Holly. Elle sourit.
J'essaierai. Voulez-vous un chocolat chaud? Je peux en faire? Ou quelque chose de plus fort peut-être? Non, merci. Juste mon lit. Je ne voudrais surtout pas paraître mal poli. Mais la journée a été longue. Oui, bien sûr. Je vais vous montrer votre chambre.
Toutefois, Holly s'attarda un instant. Elle regardait le salon.
L'intrus était assis juste là quand vous êtes descendu? Oui, sur une des chaises de la cuisine.
Janet tendit le doigt, puis noua les bras autour de sa poitrine.
Tout d'abord, je n'ai vu que ses jambes, puis ce mot tatoué sur ses doigts. Must. Et quand il s'est penché en avant, j'ai aperçu son visage. Le visage de Bolton? Oui.
Holly sembla réfléchir. Puis un sourire radieux qui surprit Ralph et son épouse illumina ses traits. Elle paraissait plus jeune tout à coup.
Si vous voulez bien m'excuser, je vais retrouver les bras de Morphée.
Janet la conduisit au premier tout en bavardant. Elle la met à l'aise comme je n'aurais pas su le faire, pensa Ralph. C'est un don qui se révélera sans doute efficace, même avec cette femme très bizarre. Mais aussi bizarre soit-elle, c'était une femme étrangement sympathique, malgré ses idées délirantes concernant Terry Maitland et Heath Holmes. Des idées délirantes qui coïncident avec les faits. Qui coïncident très exactement. Mais ça reste impossible, murmura-t-il. Il entendit les 2 femmes rire à l'étage. Cela le fit sourire.
Lorsqu'il entendit Janet retourner dans leur chambre, il monta à son tour. La porte de la chambre d'amis au fond du couloir était fermée. La liasse de feuilles, fruit des recherches expéditives de sa femme, l'attendait sur son oreiller. Il se déshabilla, s'allongea, et entreprit de lire ce qui concernait Mademoiselle Holly Gibney, copropriétaire de l'agence Finders Keepers, spécialisée dans la recherche des fugitifs et des débiteurs. 17. Garé un peu plus loin dans la rue, Jack regarda la femme en tailleur pénétrer dans l'allée des Anderson. Ralph sortit pour l'aider à transporter ses bagages. Elle voyageait léger. Elle avait un sac de chez Walmart. Voilà donc où elle s'était rendue. Pour acheter une chemise de nuit et une brosse à dents, peut-être. Et s'il se fiait à son apparence, la chemise de nuit devait être horrible et les poils de la brosse à dents assez durs pour faire saigner ses gencives. Il but une gorgée au goulot de sa flasque. Et alors qu'il revissait le bouchon en envisageant de rentrer chez lui, maintenant que tous ses gentils petits étaient couchés, il s'aperçut qu'il n'était plus seul à bord de son pick-up. Un intrus avait pris place sur le siège du passager. Il venait d'apparaître dans l'angle de son champ de vision. C'était impossible, évidemment, mais il ne pouvait pas être là depuis le début, si? Hoskins regardait droit devant lui. Le coup de soleil sur sa nuque, relativement calme jusqu'à maintenant, se remit à palpiter, et douloureusement. Une main pénétra dans son champ de vision, comme flottante. On pouvait presque voir à travers. Sur les doigts, à l'encre d'un bleu délavé, figurait le mot « must ». Hoskins ferma les yeux, en priant pour que son passager ne le touche pas.
« Il faut que tu roules », dit le visiteur. « Sauf si tu veux mourir comme ta mère, évidemment. Tu te souviens comme elle criait ?»
Oui, Jack s'en souvenait.
« Jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus crier », dit le visiteur.
La main frôla sa cuisse, très légèrement, et Jack sut que sa peau allait bientôt le brûler à cet endroit, comme sa nuque. Son pantalon n'offrirait aucune protection. Le poison s'infiltrerait à travers le tissu.
« Oui, tu t'en souviens. Comment pourrais-tu oublier ? Où voulez-vous que j'aille ?»
Le passager le lui dit, et la sensation de cette effroyable main disparut. Jack ouvrit les yeux et regarda autour de lui. Le siège du passager était vide. Les lumières de la maison des Anderson éteintes. Il consulta sa montre. 11h05. Il s'était endormi. Il pouvait presque se persuader qu'il avait fait un rêve. Un très vilain rêve. À un détail près. Il mit le contact et démarra. Il s'arrêterait à la station-service High sur la route 17, à la sortie de la ville. Le type qui travaillait de nuit là-bas, Cody, avait toujours un stock de petites pilules blanches. Il les vendait aux routiers qui fonçaient vers Chicago au nord ou vers le Texas au sud. Pour Jack Hoskins, de la police de Flint City, ce serait gratuit. Le tableau de bord du pick-up était poussiéreux. Au premier panneau stop, Jack se pencha vers la droite pour l'essuyer et effacer le mot tracé par le doigt de son passager. « Must ».